Voici une question dont la réponse en étonnera plusieurs. Est-ce que Dieu veut qu'on jouisse de la vie? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui nous fera découvrir à quel point Dieu nous aime, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone sans frais au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Quel réconfort on retrouve dans les psaumes. Qu'est-ce que vous en pensez? À maintes reprises, Dieu m'a consolé pendant que je lisais un psaume, et je sais qu'il va continuer à le faire. D'ici au retour de Jésus, j'aurai à souffrir, mais j'aurai aussi de belles consolations dans sa parole, parfois par un frère, parfois par une sœur en Jésus-Christ qui va me citer un psaume. Voici donc nos questions pour aujourd'hui. Est-ce que Jésus a volontairement accepté de se soumettre à son Père? Avons-nous tous besoin d'avoir une relation intime avec Dieu? Est-ce que Dieu aime qu'on lui dise qu'il est notre Seigneur? Est-ce qu'un enfant de Dieu est censé être conscient qu'il est un enfant de Dieu? Est-ce que le Seigneur veut qu'on jouisse de la vie? Est-ce que la résurrection du Seigneur Jésus a été prophétisée? Est-ce que la résurrection du Seigneur Jésus assure la nôtre? Qu'est-ce qui arrive après qu'un serviteur de Dieu a été humilié? Restez là. Nos réponses s'en viennent. Le Seigneur va nous les donner par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Seigneur, je viens te demander de nous aider à oublier notre quotidien pendant quelques minutes, à ne pas penser à nos soucis, à quoi que ce soit, à penser uniquement à ce que tu vas nous dire. Aide-nous à comprendre ta parole qui est si merveilleuse. Transforme-nous à travers tes Écritures, mon Dieu. On compte sur toi. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, les psaumes 16 à 24 forment une autre section dont les psaumes traitent du même thème. Dans nos livres de cantiques, les chants sont souvent regroupés par thème. Chants de louange, chants d'appel, chants de réponse à l'appel, chants de prière. Par exemple, nous retrouvons les chants au sujet de la prière dans la même section. Bien, les psaumes sont arrangés de la même façon dans ce livre de cantiques bibliques. Les 9 prochains psaumes prophétisent au sujet du Seigneur Jésus. Ces prophéties sont épicées de prophéties au sujet du reste qui demeurera fidèle à Dieu à la fin des temps. Le psaume 16 parle de la résurrection. C'est le 3e psaume messianique. Il parle de la vie du Seigneur Jésus, de sa mort, de sa résurrection et de son ascension. Le verset qui mentionne la résurrection est cité à 3 reprises dans le Nouveau Testament. Ce psaume est appelé un hymne de David. C'est le mot hébreu « mishtam » qui est traduit « hymne ». Ce mot signifie « un bijou en or ». Tel un poème gravé sur une plaque. Les psaumes 50 à 60 sont aussi appelés « Michtam ». Ce psaume est un bijou car il annonce la venue de celui qui descendra de David, celui dont David disait qu'il est son salut. Découvrons ensemble ces belles vérités. Chers amis, débutons notre lecture, le psaume 16, verset 1er. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Jésus est venu faire la volonté de son Père. Ce verset révèle les paroles du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a dit qu'il était venu accomplir la volonté de son Père et qu'il s'en remettait complètement au Père. Je ne puis rien faire de moi-même, d'après ce que j'entends. Je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Citation de l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 30. Et que dire de ce beau verset? Toujours de l'Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Oui, chers amis, lorsque Jésus s'est revêtu de notre humanité, il a volontairement accepté de se soumettre au Père. Nous sommes rien comparés au Dieu infini dans ses perfections qui a créé l'univers. Cependant, nous cédons à l'orgueil et nous nous prenons pour quelqu'un d'autre. Nous avons des personnes dans des positions élevées, des politiciens, des scientifiques, des éducateurs et des ecclésiastiques qui, un peu plus, prendraient la place de Dieu. Mais en fait, nous sommes de très petites créatures sur cette terre. Nous sommes au-dessous des anges. Hébreux, chapitre 2, versets 6 et 7. Je n'ai pas le choix que de prendre la position d'un être humain, mais le Seigneur Jésus n'avait pas à devenir un homme. C'est volontairement qu'il a accepté de prendre une nature comme la nôtre, une nature humaine. Je suis heureux d'être un être humain, mais je dois cependant reconnaître ce qu'est un homme. Je me réjouis de ce que Dieu va faire pour moi et avec moi, et pour tous ceux qui croient en lui. Chers amis, nous avons besoin d'une relation intime avec Dieu. D'ailleurs, nous sommes des êtres limités comparés à la sagesse infinie de Dieu, qui sait tout. Nous ne pouvons comprendre et percevoir tout ce qu'il y a dans notre entourage. Donc, pour marcher dans les voies de Dieu, nous avons besoin d'être en relation intime avec lui. Nous avons besoin qu'il nous guide, de marcher main dans la main. Le psalmiste dit, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. » C'est ce que le Seigneur Jésus a fait, c'est ce que David a fait, et j'espère que c'est ce que nous faisons tous. Jésus cherchait son refuge en Dieu. Il passait des heures à prier dans la solitude. Si le Fils de Dieu, dans son humiliation, avait besoin d'une relation intime avec son Père céleste, comment pouvons-nous oser affirmer que nous pouvons nous passer de la prière et que la lecture d'un verset et d'une page dans un livre de méditation quotidienne est suffisante? Mes amis, nous avons besoin d'intimité avec Dieu. Nous avons besoin de connaître sa volonté, afin qu'elle s'accomplisse dans ma vie. Venez au trône de la grâce dans la prière. Verset 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Quand pour la dernière fois avez-vous dit à Dieu qu'il était votre Seigneur? Vous êtes-vous déjà promené en automobile dans une région scénique? Avez-vous déjà fait une excursion pédestre dans la nature et, tout en l'admirant, dire à Dieu, tu es mon Créateur, mon Rédempteur et mon Seigneur? Avez-vous déjà dit cela à Dieu? J'ai des petits-enfants. C'est une joie lorsque l'un d'eux vient me trouver pour se faire prendre et qu'il m'appelle grand-papa. Nous avons un Père céleste qui nous a créés à son image. Il aime que nous venions à lui et que nous lui disions « Tu es mon Seigneur ». Le lui avez-vous dit récemment? Ne soyez pas comme les orgueilleux dont Jésus parle dans l'Évangile de Matthieu. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu, chapitre 7, versets 22 et 23. Ces gens appelaient Jésus Seigneur, mais ils ne le connaissaient même pas. Lorsque nous l'appelons Seigneur, soyons sincères. Êtes-vous conscient du fait que vous êtes un enfant de Dieu? La vraie religion est une question d'expérience et d'être conscient d'être un enfant de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Citation de Romains chapitre 8, verset 16. Chers amis, êtes-vous conscient du fait que vous êtes un enfant de Dieu? Revenons à notre psaume, le psaume 16, verset 3. Les saints qui sont dans le pays, Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. La bienveillance s'exerce envers les frères dans la foi. Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur de ses saints sur cette terre. Mais ce n'est pas tous qui ont ce privilège comme l'indique le prochain verset. La bienveillance du Seigneur Jésus s'exerçait à l'égard des pécheurs et non à l'égard du Dieu contre qui nous péchons depuis toujours. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jean chapitre 17, verset 19. Nous percevons vite que les enfants de Dieu ne sont pas parfaits. La sanctification se fait progressivement. Cependant, les chrétiens sont le sel de la terre. Dieu les a arrachés du royaume de Satan et les a élevés en dignité en les adoptant dans sa famille. Nous devons donc avoir de bons sentiments envers ceux qui ont fait de Jésus leur Seigneur. Verset 4. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Hatsébet, le mot hébreu traduit idole dans ce verset, est aussi employé dans le sens de douleur, blessure et peine. Cela suggère que les idoles n'apportent que du trouble et des déceptions. Oui, chers amis, retourner au paganisme est une folie. C'est un fait que les humains ont des cœurs insensés et méchants. Cela est évident par le fait que les hommes retournent facilement à l'idolâtrie. Aujourd'hui, après avoir pris la science comme Dieu et avoir été déçus par celle-ci, les gens délaissent l'athéisme de plus en plus. Seulement, plutôt que de revenir à Dieu ou de rechercher celui qui a laissé sa signature sur la création, ils retournent au paganisme d'autrefois. Ne faisons pas quoi que ce soit qui fait la promotion de l'idolâtrie et du satanisme. Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Exode, chapitre 23, verset 13. Le fait de retourner à l'idolâtrie qui avait été abandonnée parce qu'on n'y avait trouvé aucune satisfaction démontre la folie du cœur de l'homme. Et que dire de cette citation de 1 Jean chapitre 5, versets 20 et 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Revenons au psaume 16. Cette fois, lisons les versets 5 et 6. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. C'est merveilleux. L'Éternel est mon partage et mon calice. Le Seigneur est venu sur terre et il y a pris sa place, marchant dans un monde de péché et de douleur. Il était un étranger sur la terre. Il s'est réjoui en Dieu. Sa vie reflétait la joie et la paix. Il a dit, « Mon partage et mon calice. » Quelle est la différence entre le partage et le calice? Mon partage est ce qui m'appartient. Que j'en jouisse ou non, je peux être propriétaire d'une maison sans l'habiter. Mon calice est ce dont je me suis approprié. Je pourrais décider d'habiter ma maison. Elle devient mon calice. Ou encore, illustrons avec l'exemple d'un de mes petits-enfants. Je remplis son assiette de nourriture, c'est son partage. Mais s'il en envoie autant à terre qu'il en mange, il a reçu un partage, mais son calice est ce qu'il a consommé ou mangé. Chers amis, nous devons être remplis de joie et de vie tout le temps. De nombreuses personnes dans le monde ont été bénies par Dieu de toutes sortes de bénédictions spirituelles, mais elles n'en profitent pas. Leur coupe n'est pas remplie, elles ne débordent pas. Elles ont presque rien dans leur coupe. Dieu veut que nous jouissions de la vie. Jésus a dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean chapitre 10, verset 10. Il a aussi dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Jean chapitre 15, verset 11. Certains d'entre nous ont un peu de plaisir de temps à autre. Nous devons être remplis de joie et de vie tout le temps. Lorsque nous venons au trône de la grâce, nous avons le droit de réclamer l'amour de Dieu, qui est notre partage et notre héritage. Nous sommes les co-héritiers du Seigneur Jésus. Cela nous fut acquis par le sang de Jésus versé à la croix. Celui qui place sa confiance en Dieu et qui s'appuie sur Dieu pour sa marche quotidienne ne sera jamais déçu. Les ennemis de Dieu ne partageront pas un si bel héritage. Chers amis, amis croyants, profitons-en. Verset 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. À quoi pensez-vous la nuit, lorsque vous ne pouvez pas dormir? Le psalmiste pensait à Dieu. Après que le Seigneur Jésus nous ait acquis notre salut au prix de son sang, nous pouvons que penser à lui et le louer. Ne voulons-nous pas lui plaire en toutes choses? Maintenant, nous arrivons aux versets qui sont cités dans le Nouveau Testament, les versets 8 à 10. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. La résurrection du Seigneur Jésus fut prophétisée. Ce verset prophétise la résurrection du Seigneur Jésus. C'était le cœur même du message de Pierre le jour de la Pentecôte. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. Citation du livre des Actes, chapitre 2, versets 25 à 31. Pierre a affirmé clairement que le psaume 16 parlait de la résurrection de Jésus-Christ. De nombreux commentateurs libéraux affirment que ces versets ne prophétisent pas la résurrection. Lorsqu'un théologien libéral fait une telle affirmation, je dois considérer les paroles de Pierre. Lorsque Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, quelques milliers de personnes se sont converties et sont venues à Jésus-Christ pour être sauvées et par le fait même obtenir la vie éternelle. Ceci a entraîné une révolution dans l'Empire romain. Lorsque je considère cela, j'ai envie de demander aux théologiens libéraux combien viennent à Jésus-Christ sous leur ministère. Pierre a dit que le psaume 16 réfère à la résurrection de Jésus-Christ et je crois l'apôtre, je crois la parole de Dieu. Pierre a aussi dit ceci le jour de la Pentecôte. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu. Comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Actes chapitre 2, versets 32 à 36. De toute évidence, le psaume 16 réfère à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Paul a aussi cité ce psaume. Il a dit, « C'est pourquoi, il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Or, David, après avoir eu son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Actes chapitre 13, versets 35 à 37. Paul aussi affirme que le psaume traite de la résurrection de Jésus-Christ. Ce que nous voyons dans ce psaume est remarquable. Au verset 8, nous avons la vie du Seigneur Jésus. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Voilà le chemin qu'a suivi le Seigneur sur la terre. Et je veux prendre le même chemin. Ensuite, au verset 9, nous avons la mort du Seigneur Jésus. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Le Seigneur est mort sur la croix, sachant que Dieu le ressusciterait. Puis, nous avons sa résurrection au verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Le tout est couronné par l'ascension du Seigneur Jésus. Le verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. La résurrection du Seigneur assure la nôtre. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 22. La résurrection de Jésus assure la nôtre. Elle démontre que Dieu a approuvé et accepté le sacrifice de son Fils. Nous sommes morts et ressuscité avec lui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Romains, chapitre 6, versets 6 à 9. La gloire suit l'humiliation du serviteur de Dieu. La gloire a suivi l'humiliation volontaire du Seigneur Jésus. Il en sera ainsi des enfants de Dieu. Ceux qui acceptent de revenir à Dieu et qui marchent dans ses voies seront glorifiés un jour. Il arrive que Dieu défende ouvertement un de ses serviteurs de façon à ce que tous voient que son serviteur lui appartient et qu'il le sert. Ce fut le cas de Moïse lorsque son autorité fut contestée par Corée et ceux qui ont suivi cet homme. L'autorité de Moïse ne fut plus contestée après l'incident. Oui, Dieu récompensera les siens dans l'éternité. Quoi qu'il en soit, après l'humiliation, le serviteur de Dieu sera glorifié. Ce psaume est merveilleux. Il annonce la résurrection du Seigneur Jésus. Le Nouveau Testament le confirme. Nous avons un Dieu vivant. Vous pouvez vous adresser à lui maintenant, chers amis. Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant les psaumes 17 et 18.
Merci, Régent. Tu m'as rappelé un bon souvenir quand tu nous as demandé à quoi on pensait la nuit, quand on ne pouvait pas dormir. Tu nous as dit que le psalmiste pensait à Dieu. Mes amis, je n'ai jamais été une personne qui dormait beaucoup. Mais je me souviens de ma première nuit, après avoir reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Je me suis couché vers 1 heure du matin, après avoir écouté de beaux cantiques interprétés par la personne qui m'avait conduite à Jésus. Et j'étais étendue dans mon lit avec une joie tellement intense que je n'aurais pas voulu dormir pour tout l'or au monde. J'étais consciente que Dieu venait de me transformer, que je ne serais plus jamais la même, que j'avais la vie éternelle. J'étais certaine qu'un jour, je passerais l'éternité au ciel dans la présence de Dieu. Je savais que je ne retournerais plus jamais en arrière dans la vie de débauche qui m'avait rendue misérable tellement longtemps. Comme Réjean nous l'a mentionné aujourd'hui, l'Esprit lui-même rendait témoignage à mon esprit que j'étais une enfant de Dieu. Et il n'a jamais cessé de le faire jusqu'à aujourd'hui. Et je sais qu'il va toujours le faire, jusqu'à la venue de mon bien-aimé Sauveur Jésus. Je parlais continuellement à Dieu. Je me rappelle, une autre nuit, un peu plus tard, j'étais en visite chez mon pasteur et j'ai dû partager la chambre de visite, avec une veuve âgée qui avait été l'épouse d'un missionnaire qui était venu porter la bonne nouvelle du salut ici au Québec. Toujours est-il que le lendemain matin, elle m'a dit « Caro, tu as parlé au Seigneur une bonne partie de la nuit et pourtant j'avais très très bien dormi cette nuit-là. Alors j'ai sûrement rêvé au Seigneur. » Je pense qu'on ne peut pas faire de plus beaux rêves que ça. Mes amis, en me remémorant tout ça, je réalise qu'aujourd'hui, même si j'aime le Seigneur de tout mon cœur, il m'arrive de souffrir d'insomnie, mais parfois, au lieu de simplement prier et remercier Dieu pendant ces nuits, je suis là à le supplier de m'endormir et à faire moi-même toutes sortes d'efforts pour trouver le sommeil. C'est vrai que dans mes premiers mois de vie chrétienne, je n'avais pas de grosses responsabilités. Je n'avais pas besoin de me lever tôt le matin. Mais quand même, ce soir, quand je vais me coucher, je vais parler avec mon bien-aimé Sauveur. Et je vais lui laisser le soin de m'endormir sans m'en inquiéter. Mes amis, vous aimeriez peut-être faire la même chose. Nos journées sont tellement remplies de toutes sortes d'activités, de responsabilités, qu'il est bon qu'on utilise tous les moments de tranquillité pour communiquer avec notre Dieu qui est réellement présent par son Esprit qui habite en nous. Quel Dieu merveilleux nous avons! Je souhaite à tout le monde de le connaître et de devenir des enfants de Dieu. Mon ami, tu peux devenir un enfant de Dieu en ce moment même. Reconnais que tu es un pécheur perdu, que tu ne peux pas te racheter, te sauver toi-même. Jésus est mort sur la croix pour payer le châtiment qu'on méritait tous pour nos péchés. J'aimerais t'encourager à te repentir, à changer de direction à l'égard du péché, et demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Il frappe à la porte de ton cœur en ce moment, et il veut te faire ce beau cadeau de la vie éternelle.
Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance.
Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très, très intellectuel.
Hein? Rien de plus facile, Caro.
Oui.
Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison,
oui,
de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de
par cœur? En rapport avec le texte qu'ils auront lu, du par cœur. Quasiment pas de par cœur.
Oui, c'est intéressant.
C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi.
Pour mieux connaître Dieu.
Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant.
Ah, ça, j'en suis certaine, Régent.
Et il a des choses très importantes à partager avec nous.
J'ai le goût de m'inscrire.
Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance, à partir de chez vous. Pour toute correspondance.
Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
En composant le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou via courriel
à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.